Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis comme chaque soir à partir de 19h15, le Club des Idées avec ce soir un grand débat sur le sport. Comment sauver l'économie du sport professionnel et amateur? Le sport, c'est 17 millions de licenciés en France, mais c'est aussi un formidable vecteur de lien social qui est aujourd'hui à l'arrêt pour les jeunes notamment. Confiance en soi, santé physique et mentale. Le sport a aujourd'hui un rôle bien plus large que la simple idée de se maintenir en bonne santé. On en parlera donc avec nos invités, d'autant que le président de la République a fait aujourd'hui des annonces fortes. Il souhaite par exemple la reprise du sport pour les enfants dès le mois prochain. On les évoquera donc ces annonces dans le détail tout à l'heure. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes sur Europe 1.
Je ne peux pas écouter. C'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle. C'est pas d'un bout de viande.
La douloureuse journée des proches d'Alexia Daval qui ont écouté la longue liste des sévices infligés à leur fille par leur gendre Jonathan.
L'audition ce soir de Jean Castex, le Premier ministre, est le dernier d'une longue liste de personnalités entendues par la commission d'enquête sur la gestion de crise. Il évoque notamment les conditions d'un futur déconfinement.
La SNCF promet qu'elle sera prête pour les fêtes. Il y aura des trains pour Noël et elle promet aussi d'afficher désormais des petits prix, même pour ceux qui s'y prennent au dernier moment.
On découvre aujourd'hui que Donald Trump, qui s'apprête à céder la main à la tête des États-Unis, était prêt à bombarder un site nucléaire en Iran.
Et heureusement, ses conseillers l'en ont dissuadé, nous dira Didier François. Et puis pas de pression ce soir pour les Bleus du foot qui affrontent la Suède, si ce n'est de conclure l'année en beauté.
La tendance météo avec Anissa, printanier sur une grande partie du pays. Voilà le programme pour demain.
Exactement, avec un soleil qui brille généreusement, Julien, sur presque tout le pays. Demain, des températures toujours plus douces jusqu'à 24 degrés. C'est sur la Bretagne que le temps sera le plus agité. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une deuxième journée donc très éprouvante au procès de Jonathan Daval, jugé pour le meurtre de son épouse Alexia. Les parents de la jeune femme espéraient s'adresser directement à l'accusé ce soir.
Ce gendre qu'ils ont tant aimé, qui leur a tant menti et à qui ils ont aujourd'hui encore tant de questions à poser. Ils pourront finalement le faire demain. Cette confrontation a en effet été repoussée. Il faut dire que la journée a été suffisamment dure pour les proches d'Alexia Daval, avec des auditions très détaillées sur les circonstances du meurtre et sur l'autopsie. Arthur Mbaché a suivi cette audience pour Europe 1.
Pendant des heures, le médecin légiste, pendant des heures, des détails, saignements profonds, coups violents, l'hypothèse de lésions génitales, des traces de sperme insupportables pour la mère d'Alexia, Isabelle Fouillot.
Je ne peux pas écouter, c'est de ma fille qu'on parle. On parle d'un corps déchiqueté, on parle d'un pied amputé. C'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle. C'est pas d'un bout de viande.
Face au parti civil, défendu notamment par maître Cathy Richard, Jonathan Daval, qui, dans le box, se bouche les oreilles quand sont abordés les détails les plus crus.
Il s'abaisse dans le box au fur et à mesure. Je sais que mon client me dit « mais on ne peut pas lui demander de remonter, enfin, de mettre un coussin ou non ?» Parce que de toute façon, je pense que même si on montait le banc, il se baisserait encore plus. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui est incapable de se confronter aux autres, mais il doit aussi se confronter à la justice.
L'audition des parties civiles, les parents et la sœur d'Alexia notamment, devait se tenir en fin d'après-midi. Il y a du retard sur le programme, ce sera demain matin. Vesoul, Arthur Mbaché, Europe 1.
Oui, le Premier ministre Jean Castex, actuellement auditionné par les députés sur sa gestion de la crise sanitaire.
Il est le dernier haut responsable à passer devant cette commission d'enquête instaurée il y a près de 6 mois et qui a déjà entendu une cinquantaine de personnes.
Jean Castex qui a notamment évoqué tout à l'heure les conditions du futur déconfinement qui seront très différentes de ce qui s'était passé la dernière fois.
Plus vite, enfin au mieux, la phase actuelle de confinement produira ses effets, en termes sanitaires j'entends, plus nous pourrons évoluer et passer à une phase suivante, mais qui ne sera pas le retour à l'anté-confinement. C'est-à-dire que il y aura des dispositions de freinage qui sont en cours de calage, qui perdureront, soit pour certains ERP, soit pour certains, parce que la situation se sera améliorée, mais pas suffisamment, et puis surtout parce, pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre une période de confinement et une période de déconfinement.
Le Premier ministre, ce soir, devant les députés, Emmanuel Macron devrait, lui, théoriquement s'exprimer la semaine prochaine sur une sortie progressive, justement, du confinement. Et puis notez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera demain matin l'invité d'Europe 1 à 8h15 avec Sonia Mabrouk.
En attendant, l'horizon ne s'éclaircit pas tout à fait pour les cafés, les bars et les restaurants. Ils devraient rester fermés au moins jusqu'à la mi-janvier.
L'étau se desserre un peu, en revanche, pour les fleuristes. Dès vendredi, ils pourront vendre des sapins sapins de Noël à l'extérieur de leur boutique sur le trottoir. Le sport compte, a martelé à plusieurs reprises Emmanuel Macron, qui rencontrait les acteurs du monde sportif et qui a donc annoncé plusieurs mesures, notamment le déblocage de 400 millions d'euros pour le sport amateur comme pour le sport professionnel.
Oui, parmi ces mesures, un fonds de compensation pour la billetterie ou encore un passeport pour aider les jeunes et les personnes en situation de handicap à s'inscrire dans un club. On y revient dans le débat du Club des Idées à partir de 19h15. Et alors que l'incertitude règne toujours autour des fêtes de fin d'année, la SNCF, elle, se veut rassurante.
Eh oui, elle sera prête, elle n'attend plus que le go du gouvernement, c'est ce qu'a dit en tout cas ce matin sur Europe 1 Jean-Pierre Farandou, son PDG. Aurélien Fleureau, si tout va bien, on pourra donc partir en vacances en train pour Noël.
Oui, exactement. Si sur le plan sanitaire la situation le permet, tout sera mis en œuvre pour proposer une offre de train la plus normale possible. Pour inciter à réserver sans risque, la SNCF rappelle que tous les billets pris jusqu'au 4 janvier seront entièrement remboursables, sans condition. Jusqu'ici, la baisse de réservation est de moins 55% par rapport à une mi-novembre habituelle. Le trafic est actuellement assuré à hauteur de 30%. Lors du premier confinement, il avait fallu un mois avant de retrouver 100% de l'offre. Cette fois, cela devrait aller plus vite.
La SNCF qui veut par ailleurs, Aurélien, réconcilier les voyageurs avec le train et qui annonce une politique tarifaire revue à la baisse.
Oui, l'ambition affichée, c'est que les petits prix ne soient pas réservés uniquement à ceux qui achètent leurs billets plusieurs semaines à l'avance. C'est donc toute la gamme tarifaire des TGV qui va être repensée. Les comptes de la SNCF sont dans le rouge et pour son PDG Jean-Pierre Farandou, il faudra à tout prix donner envie aux voyageurs de revenir dans les trains.
Moi, j'en ai un peu assez qu'on dise que la SNCF, c'est cher, parce que d'abord, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de petits prix dans nos gammes tarifaires. Voilà, donc il y a un travail de conviction à faire, et c'est pour ça que j'ai demandé à ma direction voyageur de travailler sur une évolution de la tarification pour faire en sorte, par exemple, qu'effectivement, au dernier moment, on puisse encore trouver des petits prix quand on veut acheter un billet de train.
Les équipes de SNCF Voyageurs sont donc en train de travailler sur cette nouvelle tarification qui devrait entrer en vigueur l'été prochain.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe
1. Et à noter que les transports publics, Isabelle, adaptent leurs fréquences évidemment au reconfinement.
Avec cette info pratique à destination des habitants de Paris et de sa région, dès demain, le trafic des métros et des bus sera réduit jusqu'à 50% en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire entre 10h et 16h. Les lignes 1, 13 et 14 du métro ne sont pas concernées.
Et en matière de reconfinement, déconfinement, à chaque pays ses préoccupations. Nous, c'est les sapins. Les Britanniques, eux, veulent pouvoir manger de la dinde à Noël.
Et pour s'en assurer,
oui,
le gouvernement
aussi,
nous aussi. Le gouvernement de Boris Johnson a assoupli temporairement les règles de quarantaine pour la main-d'œuvre étrangère qui vient travailler dans les élevages de volailles en Angleterre. Alors que les voyageurs qui arrivent de pays fortement touchés par la pandémie sont théoriquement soumis à une quarantaine de 14 jours à leur arrivée, eh bien, ces travailleurs saisonniers, employés par ces élevages, eux, peuvent directement se mettre à la tâche.
Bien, information intéressante. Merci Isabelle, à tout de suite. Pour la suite du journal.
Julien Bugier.
La suite du journal dans quelques secondes. On parle de Donald Trump, décidément en roue libre. Vous verrez pourquoi.
Et des Bleus, du foot, décidément sans pression.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h08, la suite de votre journal avec toujours Isabelle Millet, bien sûr. Et on part aux États-Unis où Donald Trump est toujours président jusqu'au 20 janvier. Et il a bien l'intention de profiter des deux mois qui lui restent, quitte à faire n'importe quoi.
On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Donald Trump en roue libre pour ses derniers jours à la Maison-Blanche, qui n'a plus rien à perdre et qui est prêt à tout. Il envisageait même, Didier, de bombarder les centres nucléaires iraniens.
Oui, alors provoquant stupeur et consternation parmi ses plus proches collaborateurs, c'était à la Maison-Blanche jeudi dernier, dans le bureau ovale, devant le vice-président, le chef d'état-major, le secrétaire d'État, fidèle entre les fidèles, et que Donald Trump a benoîtement posé la question « Est-ce que les États-Unis n'auraient pas les moyens de frapper dans les semaines à venir le site iranien d'enrichissement d'uranium à Natanz ?» Il a donc fallu toute la force de conviction de sa garde rapprochée pour dissuader Donald Trump de se lancer dans une telle opération qui pourrait déclencher un conflit majeur, au moins d'ampleur régionale, alors que son mandat touche à sa fin, même s'il refuse officiellement de le reconnaître. Parce que c'est justement ça qu'il taraude, le fait que son adversaire, Joe Biden, a promis de reprendre les négociations avec l'Iran dès sa prise de fonction et que déclencher aujourd'hui un conflit avec la République islamique rendrait évidemment impossible toute relance du dialogue. On sent donc bien que derrière cette interrogation de Donald Trump se profile la tentation d'une politique de terre brûlée qui ne laisserait à son successeur qu'un champ de ruines diplomatiques.
Oui, d'autant, Didier, que Donald Trump envisage des décisions tout aussi radicales dans d'autres domaines militaires.
Alors absolument, il envisage très sérieusement un retrait extrêmement rapide des troupes américaines déployées en Afghanistan, en Irak et en Somalie, voire même une réduction accélérée du nombre de soldats stationnés en Allemagne. Et il a limogé son ministre de la Défense la semaine dernière, parce que justement, ils sont posés au retour avant Noël de plus de la moitié du contingent d'Afghanistan. Or là encore, à l'idée de Donald Trump, elle essaie de démontrer qu'il tient ses promesses, mais c'est surtout de laisser à son successeur des marges de manœuvre les plus réduites possibles.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est évidemment tous les soirs dans le journal de 19h.
Plus de 2000 migrants ont été évacués aujourd'hui d'un important campement à Saint-Denis, près du Stade de France, en majorité des hommes seuls, originaires d'Afghanistan, de Somalie, d'Éthiopie ou du Soudan. L'Éthiopie et le Soudan, deux pays dans lesquels se développe une crise humanitaire à grande échelle actuellement, d'après l'ONU.
Ça paraît incroyable, c'est un problème d'inversion de câble qui est à l'origine de l'échec du lancement de la fusée Vega. La nuit dernière.
Et oui, on va raconter ça tout à l'heure dans le journal de 18h. Une anomalie lors de la fabrication du lanceur européen.
Le sport, avis aux amateurs. Le prochain marathon de Paris aura lieu le 17 octobre 2021.
Ça vous laisse un peu de temps, Julien, pour vous entraîner.
Et vous de même.
Le semi-marathon, c'est plus pour moi, se déroulera, lui, le 5 septembre.
On le fait ensemble, alors, l'année prochaine. Rugby, le tournoi Destination 2021 se jouera à huis clos en France.
Les deux matchs à domicile que les Bleus doivent jouer, effectivement, l'année prochaine, contre l'Écosse et le Pays de Galles, s'effectueront dans un stade de France vide.
Pas de public non plus ce soir pour le foot.
La France affronte la Suède en Ligue des Nations, dernière journée de la phase de groupe. Pas d'enjeu, puisque les Français sont de toute façon déjà qualifiés pour la phase finale. Mais des Bleus qui ont quand même besoin et envie de gagner, Cyril de la Morinerie, ne serait-ce que pour l'image et puis pour le moral aussi.
Oui, avant une pause de 4 mois et le début des qualifications pour la Coupe du Monde, l'équipe de France espère conclure l'année en beauté. La victoire au Portugal a rassuré avec des Français en mode Coupe du Monde, mais l'humiliante défaite contre la Finlande n'est pas totalement pardonnée. L'équipe de France bis a fait peine à voir. Lucas Digne, Léo Dubois, Clément Langlais, Kurt Zouma notamment pourraient avoir une nouvelle chance, tout comme Moussa Sissoko, transparent mercredi dernier. En attaque, le prometteur Marcus Thuram devrait se voir offrir une troisième sélection et Olivier Giroud retrouver sans doute une place de titulaire. Pour le capitaine Hugo Lloris, il y a malgré tout un risque de relâchement et il faut à tout prix l'éviter.
La nonchalance, non, de suffisance peut-être, parce qu'on est déjà qualifié, mais la défaite face à la Finlande, voilà, nous a rappelé à l'ordre. Lorsqu'on porte le maillot des Bleus, on se doit d'être performant, on se doit de gagner. Et l'idée, c'est de finir l'année civile sur une victoire.
Enfin, Kylian Mbappé, blessé à la cuisse droite, va mieux. L'attaquant de 21 ans devrait débuter ou entrer en cours de match, comme l'a révélé hier Didier Deschamps. Même si le PSG, qui va jouer dans moins d'une semaine un match capital en Ligue des Champions, aurait sans doute apprécié qu'il soit encore ménagé.
Sans doute. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Coup d'envoi de ce match 20h45 à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Merci Isabelle Millet. On vous laisse à vos baskets et à votre jogging du soir. Non, je plaisante, c'est pour s'entraîner pour le semi-marathon. Merci en tout cas, on vous retrouve demain à partir de 18h. La météo avec Anissa.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Du beau temps pour ce mercredi, Anissa.
Et il va falloir en profiter. Alors, profiter en temps de confinement.
Bah oui,
vous ouvrez
jogging,
les fenêtres.
Un petit jogging.
Voilà, moins d'un kilomètre de chez vous. Vous allez sur le balcon, profitez de vos terrasses et de vos jardins parce que demain sera vraiment une très très belle journée sur une grande partie du pays. Après la dissipation des brouillards matinaux sur la moitié nord, eh bien, le soleil va s'imposer presque partout, puisque sur le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, et bien là, dans tous ces départements, le ciel sera gris demain avec des petites pluies et du vent sur les côtes. C'est une petite perturbation qui arrive donc par la Bretagne demain. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches le matin normal. Il y a moins de nuages, donc le ciel est dégagé, donc les températures baissent un peu le matin. On a 0 à 11 degrés, 0 à Chambéry, 7 à Paris et 11 dans le sud. Et puis toujours plus douce l'après-midi, 13 à 21 degrés. On aura 16 degrés à Paris par exemple et plus de 24 degrés dans le sud-ouest au sud de la Garonne.
Bien, 24 degrés, ça fait rêver. Merci Anissa et
à demain,
les 8h. Il est 19h14, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes impuni.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et fondateur du think tank Génération Libre, Gaspard Koenig. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous allez nous parler d'une proposition de loi sur la préservation des biens communs. Plutôt sympa, non ?
Oui, c'est une proposition de loi qui est en cours d'examen au Sénat, dont l'intitulé est très sympa. Mais le revers de la médaille, évidemment, de préserver les biens communs, c'est de réduire le droit de propriété. Et c'est une proposition assez sérieuse, puisqu'elle émane d'une tribune qui a été signée il y a 2 ans dans Le Monde par des grands intellectuels, Edgar Morin à Marcel Gauchet, en passant par Thomas Piketty ou Cynthia Fleury, et qui vise à restreindre la définition du droit de propriété telle qu'elle est posée constitutionnellement, c'est-à-dire telle qu'elle est inspirée de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, excusez du peu, et qui permet aujourd'hui au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel de censurer un certain nombre de lois abusives. Et au nom du bien commun, on pourrait revenir sur une des pierres fondateurs de notre droit. Et ça mériterait au moins un débat public beaucoup plus large.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous revenez d'un voyage, pour ceux qui l'ont suivi à travers Le Point, notamment de 5 mois à cheval dans les territoires, et vous vous intéressez au droit à la propriété.
Bah, oui, mais j'ai rencontré durant mon voyage des Français très généreux, très accueillants, puisque je demandais l'hospitalité, mais justement très attachés au droit de propriété, parlant beaucoup de problèmes de parcelles, de cadastres, rétifs aux intrusions administratives au nom de telle ou telle norme quand elles empiètent précisément sur leur terrain, sur leur territoire. Et je me suis rendu compte que ça venait de loin. Le droit de propriété, il faut quand même se rappeler que c'est une conquête de la Révolution française. Quand on relit Georges Duby, on comprend que c'est une conquête qui vient de très très loin. Ça a pris quasiment un millénaire de l'émancipation des serfs jusqu'à l'abolition définitive de la tenure en 1789. Et donc le droit de propriété s'est vu comme une protection et une conquête. Et à l'inverse, empiéter sur le droit de propriété, c'est bien sûr le début des dérives totalitaires, car qui définit le bien commun sinon le politique ?
Mais réglementer, Gaspard Koenig, le droit de propriété, ça fait sens quand même face aux nouveaux défis que sont le climat ou les crises sociales ?
Et bien sûr, je n'ai rien contre le bien commun. Jean Tirole a écrit une économie du bien commun. Les premiers biens communs ont d'ailleurs été posés par Adam Smith. Mais justement, c'est la régulation, la nécessaire régulation, qui est la sœur jumelle du droit de propriété. Une chose, c'est de réguler l'utilisation de la propriété. L'autre chose, c'est de s'emparer de la propriété en limitant la définition. Si vous considérez que l'air est un bien commun, vous allez réguler, par exemple par une taxe carbone, l'émission du carbone et donc la pollution. C'est tout à fait différent de considérer que la forêt est un bien commun et doit être, par exemple, administrée par l'État. Et c'est d'ailleurs l'affirmation de la propriété qui permet d'y attacher des devoirs. Pour revenir à mon voyage, j'avais été particulièrement frappé par la différence de gouvernance entre les chemins allemands et les chemins français. En Allemagne, où l'organisation ordo-libérale sacralise le droit de propriété, les chemins dans les forêts sont des chemins ouverts. Vous avez un droit de passage partout. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la propriété oblige. Dans la constitution allemande, il est dit que Eigentum verpflichtet, la propriété oblige. Alors qu'en France, pays plus socialisé, où les chemins GR sont bien communs, eh bien, au contraire, oui, les propriétés privées, les forêts, notamment les forêts de Sologne, sont totalement barricadées. Et donc dire, y compris dans la Constitution, que la propriété oblige, que la propriété comporte des obligations, c'est une chose à laquelle je suis tout à fait favorable. Mais c'est tout à fait différent de limiter le droit de propriété. Et c'est un débat urgent, un débat crucial, un débat de notre époque, qu'il faudrait tenir de manière beaucoup plus large et publique.
Merci Gaspard Koenig pour ce point de vue ce soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, vous restez avec nous dans quelques secondes, le débat du Club des Idées. Ce soir, cette question, comment sauver le sport français amateur ou professionnel avec la crise des fédérations, sonne l'alerte et se disent menacés de disparaître. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h21, dans le débat du Club des Idées, comment sauver le sport français ? Visiblement, le chef de l'État a été sensible au cri d'alarme des patrons de fédération avec qui il s'entretenait aujourd'hui. Le sport français craint pour sa survie professionnelle et amateur. Les pertes pour l'ensemble de la filière dépasseraient le milliard d'euros. Mais au-delà des chiffres, c'est aussi, avec l'arrêt du sport, le délitement du lien social qui est en marche pour les jeunes, pour les clubs amateurs et pour les fédérations. Il y a urgence à agir, disent-ils. On en parle donc ce soir avec nos invités. Jean-Philippe Asensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir Pierre
Bonsoir.
Rondeau. Et avec Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, chargée également des questions de sport. Bonsoir Carole
Bonsoir.
Gomez. Alors d'abord, peut-être un mot sur le constat. Rappelons qu'au-delà des clubs pro et des champions qui nous font rêver, c'est vrai, le sport en France, c'est 17 millions de licenciés et plus de 200 000 associations, beaucoup de monde qui aujourd'hui sont à l'arrêt totalement complet, Pierre Rondeau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de périscolaire pour les enfants, il n'y a plus de club qui fonctionne, il n'y a plus de stade qui accueille du public.
C'est très simple. Tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social ou sociétal, il n'y a plus aucune activité physique et sportive actuellement en France. Alors,
oui,
bien évidemment, c'est à cause du confinement et on doit respecter des mesures sanitaires pour éviter la propagation de la maladie. Donc, on n'a pas à remettre en cause cet état de fait. Mais effectivement, si on veut mettre en avant l'intérêt que peut avoir le sport pour le lien social, pour la fraternité, pour la cohésion, au-delà de l'aspect économique et des conséquences économiques, c'est sûr que le secteur vit des heures extrêmement difficiles. Il n'y a plus aucune activité physique et sportive.
On va en parler de l'impact social et de ce vecteur que vous évoquez pour le lien social en France, car il est important. D'abord, je voudrais votre réaction aux annonces d'Emmanuel Macron, qui, à l'issue de plus de 2 heures de visioconférence avec les acteurs du sport, a donc promis des aides, au total plus de 400 millions d'euros. Certaines avaient déjà été en réalité déjà annoncées et présentées, plus la mise en place d'un fonds d'urgence de 15 millions d'euros pour soutenir les associations et les petits clubs. La réouverture, ça c'est important, des clubs à partir de décembre pour les enfants et les adolescents, ça rejoint ce que vous disiez sur le lien social.
La situation sanitaire s'est améliorée. Il y a la contrainte et la condition du protocole sanitaire qui sera
dédié. Et puis l'annonce également d'un passe sport, c'est-à-dire une aide ciblée aux familles pour payer les adhésions qui seraient mises en place, nous dit le président de la République, en 2021. Carole Gomez, est-ce que ça va dans le bon sens ?
C'est une bonne question. Allez, effectivement, cette conférence de presse, cette réunion était très fortement attendue. Elle a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Elle avait été demandée par de nombreux protagonistes du sport. Des pétitions avaient été faites, des lettres ouvertes avaient été rédigées.
Oui.
Et au final, ça a été... Alors, je ne sais pas si ça a été le point déterminant ou pas, mais la prise de parole de Tony Parker a été ô combien importante dans le déclenchement. Et on a eu l'impression que c'était cet élément-là, cette prise de parole-là, cette prise de position-là, qui avait un peu permis de débloquer et de rappeler que le sport, ça n'est pas que du sport professionnel.
Tony Parker, qui a d'ailleurs dit quadruple champion de basket aux États-Unis avec 4 titres de NBA, qui est actionnaire aussi à Villeurbanne d'un club
de basket.
Et à Lyon aussi, un club féminin de basket. Il a une voix évidemment très importante aujourd'hui en France. Il a dit, s'il n'y a pas un plan d'aide d'urgence qui est mis sur pied rapidement, c'est la mort de la Fédération du basket français.
Mais même au-delà de la Fédération de basket, c'est la mort de beaucoup de fédérations si rien n'est fait. Et heureusement, ce plan, si on veut voir le verre à moitié plein, heureusement que ce plan a été mis en place, même si on pourrait critiquer sa portée, son ambition, sa hauteur de seulement, si je peux dire, 400 millions d'euros, quand on compare avec le plan de relance de la culture de 2 milliards d'euros.
Oui.
Mais heureusement qu'il a eu lieu. Heureusement, parce que justement, comme le dit Tony Parker, et très bien, des fédérations étaient au bord de la faillite.
Jean-Philippe Asensi.
Écoutez, moi, je suis très inquiet de la situation des clubs amateurs et des pratiques amateurs, parce que le sport, c'est des clubs, mais c'est aussi des pratiques urbaines qui seront au JO en 2024, qui souffrent énormément. Le sport, c'est une question de jeunesse et de fraternité. Ça va bien au-delà de l'aspect compétitif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de signe sur ces clubs qui vivent des situations très compliquées, qui accompagnent des jeunes, qui sont derrière toute cette jeunesse. Souvenez-vous que dans un quartier, c'est un jeune sur deux au chômage et ça va être pire dans les mois à venir. On a aujourd'hui des clubs qui font un travail magnifique et des associations sur l'insertion, par exemple, où il y a pas mal d'argent sur le plan d'investissement des compétences. On attend aussi de ce plan de relance qu'il fasse de nouvelles promesses. Et cette promesse, ce nouveau programme d'insertion par le sport, par exemple, peut être très utile partout en France. Donc, je ne vois pas assez de signes de soutien de tous ces éducateurs qui font ce travail absolument formidable. Qu'est-ce qu'on va devenir demain ? Il y a déjà eu beaucoup d'emplois supprimés depuis 3 ans sur les emplois aidés. C'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont été supprimés. On est à deux doigts, dans ces quartiers-là, d'une explosion sociale majeure. Le sport est majeur, les associations sont majeures. Aidons-les !
Et on continue d'en parler. Merci pour ce constat et ce cri d'alarme. Et on continue d'en parler dans quelques secondes, 19h26. A tout de suite en direct dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Et ce soir, à 19h30, dans le débat du Club des Idées, on continue de parler du sport. Comment sauver le sport français ? On en parle avec nos invités, et notamment Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, chargée des questions de sport. Alors, on évoquait l'importance du sport pour le lien social. C'est vrai que cette absence de sport pour les plus jeunes, ça peut avoir des répercussions négatives sur l'isolement, sur la perte de confiance en soi, sur les trajectoires de certains jeunes, des adolescents, qui, on le sait, quand ils sortent de l'école, ne rentrent pas forcément chez eux. Eh bien, le sport est un vecteur aussi d'occupation pour les éviter de prendre d'autres directions, par exemple.
Alors oui, et effectivement, mais c'est aussi peut-être au-delà de cette question et qui fait référence à la question de la jeunesse qui avait été abordée précédemment. Il ne faut pas non plus oublier que le sport est censé avoir une place prépondérante dans notre société, notamment depuis le moment où on a décidé que la France allait être une terre de sport avec les accueils de grands événements sportifs.
Oui.
Et donc aussi la mise en place d'une diplomatie sportive. Quel est l'intérêt d'accueillir des grands événements sportifs et donc d'être un peu au cœur de l'actualité pendant une double quinzaine
Parler
ou un mois.
Des Jeux Olympiques, par exemple.
2024. Des Jeux Olympiques et Paralympiques, ouais. D'une Coupe du Monde féminine de football, d'une Coupe masculine de rugby en 2023. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ces événements sportifs pour que ça infuse dans la société, pour que ça bénéficie aux personnes dans les écoles, dans les personnes qui pratiquent de façon tout à fait libre.
Mais avec un enjeu social derrière, avec, c'est ça l'objectif.
Avec évidemment un enjeu social et également sanitaire. On a vu un certain nombre de rapports qui ont été publiés au cours des derniers mois, notamment par l'OMS, et qui expliquaient à quel point la pratique sportive, pas forcément une pratique d'élite, mais la pratique sportive régulière, hebdomadaire, était essentielle en termes de prévention de maladies, de pathologies importantes, oui. En termes de liens sociaux, etc. Et donc c'est aussi cet élément politique qu'il faut avoir en tête. Et la réflexion avait été faite tout à l'heure de la comparaison avec la culture et du budget qui était considérablement plus faible au niveau du sport. C'est aussi la considération, la trop faible considération au sein des instances françaises du sport en tant que tel et de ses bienfaits.
Alors deux remarques, il est intéressant pour rebondir sur ce que vous dites de voir que dans les récentes enquêtes menées sur le sujet, les motivations sociales de santé sont le plus souvent mises en avant pour justifier les inscriptions dans les clubs de sport. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Bernard Laporte disait ce matin, chez les anglo-saxons, c'est vrai que le sport est véritablement valorisé à l'école, mais nous, on n'y arrive pas. Pourquoi Pierre Rondeau, économiste du sport, on n'y arrive pas?
Après, on pourrait aussi relativiser les propos de Bernard Laporte concernant la pratique du sport à l'école, puisqu'on a malgré tout des cours de PS qui sont encore aujourd'hui organisés au sein des écoles.
Oui.
Les écoliers ont toujours accès à certaines infrastructures sportives. Pas toutes, mais certaines. Et il y a encore 5h30 de cours de PS par semaine au collège.
Mais quand vous allez chez les Anglais ou chez les Américains, c'est toute l'après-midi qui est réservée au sport.
Aussi, non, mais bien sûr, mais il y a un...
Et d'ailleurs, on peut parvenir à réussir des études supérieures grâce aussi
par
à cette
sport, qualité
parce sportive.
Que c'est toute la modalité d'organisation des centres de formation en France qui n'ont pas les mêmes types ou les mêmes modalités que ce qu'on peut voir sur le territoire américain ou en Grande-Bretagne. C'est vrai que dans ces pays-là, on va mettre en avant à la fois le corps et l'esprit, une esprit sain dans un corps sain, et on va aussi effectivement mettre en avant la pratique sportive.
Oui. Mais aussi, nous, c'est la dictée, les fables de La Fontaine.
Oui, mais si vous voulez, en gros, si, dans le modèle américain, le financement aussi passe par le privé, en tout cas, soit l'université ou ailleurs, le secteur privé finance le sport. Et lorsque les Américains ou les Anglais, par exemple, pourraient dans le sens de la France, eux-mêmes subissent la crise économique, le sport aussi subit la crise économique. Mais il n'est pas aidé en retour par l'État, puisque l'État s'est dessaisi des pratiques sportives en Angleterre et aux États-Unis et au Canada. Alors qu'en France, malgré tout, même si on peut être attristé par le manque d'efforts faits en faveur du sport, l'État est présent, l'État est là. Emmanuel Macron a reçu les acteurs du sport et a promis certains plans, à mon sens pas assez suffisants, mais un plan de 400 millions d'euros. Vous allez voir les Britanniques. Les Britanniques, aujourd'hui, ils n'ont eu aucune aide de la part de l'État pour la relance du sport amateur comme professionnel.
Mais ils n'ont eu aucune aide nulle part d'ailleurs par rapport à la France qui est quand même une économie où on soutient et on valorise des pans entiers de notre industrie. Jean-Philippe Assensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport.
Oui, je pense qu'il faut parler aussi des nouveaux métiers, de l'évolution des métiers. Aujourd'hui, beaucoup de villes, beaucoup de collectivités, parce que le sport, il se passe surtout sur le terrain, mettent en place des programmes nouveaux d'éducation, d'insertion. Donc il y a tout ce pan d'évolution des nouveaux métiers. Nous, on vient de créer un métier qui s'appelle coach d'insertion par le sport, où l'éducateur a un rôle essentiel, notamment sur les publics qui sont en marge, qui sont en difficulté, pas que. Mais aujourd'hui, l'espace sportif est un des derniers espaces où ces jeunes-là sont accueillis, où on fait le lien aussi avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un champ d'innovation sociale considérable.
Et on est en capacité de le mesurer, ça, la valorisation de l'individu par le biais du sport, et du coup, la réussite et peut-être l'ascenseur social par la suite.
Tous les maires vous le diront, tous les élus locaux vous diront que le secteur associatif sportif est un des secteurs les plus importants, est essentiel pour l'accompagnement de toute cette jeunesse. Donc, dans le cadre d'un plan de relance, c'est peut-être une nouvelle promesse du sport qu'il faut aussi inventer, c'est peut-être autre chose qu'il faut arriver à aller chercher. Et là, il y a un potentiel depuis des années.
Oui.
Il y a des fédérations qui travaillent sur le sujet. La Fédération française de voile a monté un projet. La mer est à vous. Il y a des élus locaux, il y a des entreprises. Il faut inventer autre chose que la pratique sportive. Et tout ce qu'on se dit là aujourd'hui, le sport, c'est un des secteurs essentiels pour l'avenir des quartiers, mais pas seulement de notre jeunesse.
Pour vous dire à quel point le sport est vecteur d'intégration et de mieux-être social et même intellectuel, je dirais, à l'époque où il existait les contrats aidés qui depuis ont été supprimés par le gouvernement Macron, à l'époque des contrats aidés, les contrats aidés dans le secteur sportif amenaient à deux fois plus de CDI que tous les autres contrats aidés.
60%.
Même 60% en plus que tous les autres contre-aider. Donc oui, le sport est un vecteur d'intégration, est un vecteur de socialisation et même soutient l'emploi, soutient la personne en elle-même. Donc on parle beaucoup d'économie, de poids économique, de millions dépensés. Pensons aussi aux conséquences sociales et sociétales. Tu vas voir la crise sur la pratique sportive.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conséquences de tout cela, c'est que le nombre d'adhésions et de licenciés est en baisse. Je regardais les chiffres ce matin déjà de 20%. Avec ce reconfinement, on imagine que ce sera plus. Et c'est autant de bénévoles qui quittent le secteur associatif et qui ne seront pas demain présents pour encadrer les jeunes. Carole Gomez.
Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui va poser question. Et là encore, ça nous ramène quelques mois auparavant où on essayait d'imaginer ce sport d'après. Il y a eu je ne sais combien de tables rondes, d'émissions, de réflexions sur comment est-ce qu'on peut imaginer le sport d'après. Et à mon sens, c'est une réflexion qui n'a pas été suffisamment loin, puisque ben, on regarde aujourd'hui et la situation n'a pas beaucoup évolué. Oui. On fait les mêmes constats. Et donc, c'est aussi quelque part le côté un peu dramatique de la chose. Pour rebondir sur ce que disait Pierre Rondeau, il me semble aussi important de préciser qu'il faut investir dans le sport. Le sport, c'est pas simplement une baguette magique qui va permettre de favoriser une intégration, de favoriser un parcours d'une personne. Ça, il va falloir faire un investissement pour pouvoir avoir un retour sur investissement sur ce principe. Et donc là encore, les paroles, les prises de position qui ont pu être faites, le fait que l'on se déclare comme une nation sportive par l'accueil de grands événements sportifs, par des réformes qui se veulent profondes, ça ne doit pas rester uniquement des paroles, mais simplement il faut aussi qu'on passe aux actes et qu'on donne les moyens à ce milieu sportif, aux bénévoles, aux personnes qui travaillent tous les jours dans ces clubs, dans ces quartiers, de vraiment avoir les moyens de réaliser cet effort.
Et dans quelques secondes, on fera le lien avec le sport professionnel, car évidemment, les deux sont liés. Si le sport pro va bien, le sport amateur va bien aussi. On en parle juste après la pause, 19h38. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, on continue de parler dans le débat du Club des Idées, du sport. Comment sauver le sport français? Le chef de l'État a fait des annonces aujourd'hui après le cri d'alarme lancé par les fédérations de sport. On en parle donc ce soir avec nos invités. Alors c'est vrai, Jean-Philippe Asensi, fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport, j'ai sous les yeux la baisse des licences par fédération sportive entre octobre 2019 et octobre 2020. Sur un an donc, c'est absolument incroyable. Par exemple, sur la lutte, la baisse est de 44%, le judo moins 29%, la natation moins 25%, et ça continue, le basket moins 11%. À chaque fois, ça fait des volumes très importants. Hein. Le basket, c'est par exemple moins 51 000 licenciés. Quelles conséquences ça a, très concrètement, ça, sur une fédération?
Bah, très concrètement, on le disait tout à l'heure sur le basket, ça peut être la fin des fédérations, l'épuisement de ces acteurs de terrain qui se sentent complètement démunis. Quoi. Il faut d'urgence leur permettre...
Mais la fin d'une fédération, ça veut dire que demain, on n'a plus les moyens de faire vivre des petits clubs de basket partout en France pour son ado, pour son enfant ou pour les semi-pros?
Bah, il peut y avoir un plan social, il y a des fédérations qui l'ont dit, mais ce qui est assez terrible localement, c'est que ces clubs qui aujourd'hui sont à l'arrêt, qui sont déjà dans des conditions parfois extrêmement précaires, perdent courage et ne se sentent plus forcément soutenus. Il y a besoin urgemment d'avoir des mesures sur ces clubs qui sont dans des zones prioritaires. Déjà, principalement, aujourd'hui, on n'a pas entendu ça. C'est ça qu'on attendait aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la reconnaissance pour ceux qui font le métier le plus dur du sport.
Oui.
L'analogie avec la santé, les infirmières, etc. Aujourd'hui, ceux qui font le plus dur métier dans le sport, c'est dans ces quartiers populaires. Et c'est peut-être une mesure à isoler dans ces quartiers pour toutes ces pratiques sportives.
Alors, il y a simplement une exception qui est assez notable, c'est l'équitation. Oui. Plus 11,6% de licenciés, ça fait 27 000 licenciés en plus. Est-ce que c'est lié au confinement et aux mesures de distanciation?
Je pense qu'il y a justement sport extérieur qui va rassurer les parents de ne pas être confinés à l'intérieur et sport individuel. On n'est pas, par exemple, vous parlez de la lutte. La lutte, c'est un sport de contact en intérieur. Oui. Donc, je pense que les parents étaient très apeurés à l'idée d'inscrire leurs enfants dans un sport qui potentiellement pouvait aggraver les risques de contamination.
L'équitation, je parle sous votre contrôle, est un sport, une pratique sportive qui s'est démocratisé,
bien sûr, ouais. Avec une augmentation du nombre d'arras en France, effectivement démocratisé.
Beaucoup moins cher maintenant pour se licencier.
Oui, bien sûr. Alors concernant justement le risque pour les fédérations à plus ou moins long terme, à court terme, effectivement, on parle de coûts économiques. C'est chiffrable. Par exemple, je vous cite une étude du CNOSF, pardon, du Comité National Olympique du Sport Français,
oui.
Qui sur les 160 000 clubs en France en a interrogé 35 000. Et sur ce panel de 35 000 clubs, chacun donc, a répondu à un questionnaire. Et au total, la perte déclarée est de 375 millions d'euros pour les 35 000 clubs. Donc si vous faites le ratio à 160 000,
oui, ça fait beaucoup d'argent.
On dépasse le milliard en pertes économiques. Donc à court terme, ce niveau des pertes économiques, vous avez raison, qui pourront être rattrapées si demain, les gens de nouveau peuvent rejouer au basket, à la lutte, au rugby ou autre. Il n'y aura pas de pertes. Là où c'est plus inquiétant, et on en revient au rapport sociétal, c'est vis-à-vis de la fidélisation. Fidélisation des pratiques et des pratiquants et pratiquantes, mais aussi fidélisation des bénévoles. Les bénévoles sont indispensables à la gestion et à l'organisation des clubs de sport et des fédérations. Si vous n'accordez plus à la fois de respect, mais de temps à ces bénévoles, si vous ne leur accordez pas un statut particulier et une défense de leur situation de bénévole, ces gens-là, tout simplement, vont perdre l'intérêt et la motivation de donner du temps et du temps libre à ces clubs.
Le petit club de foot de quartier, le petit club
qui
de hand du village.
Qui pourra amener les enfants sur le terrain municipal du village d'à côté pour aller faire une rencontre sportive? Quel
Donc
parent prendra le temps d'aller s'occuper?
C'est tout à l'heure, c'est tout le tissu social.
Voilà. Si vous voulez, en gros, les gens continueront à pratiquer un sport demain. C'est pas parce qu'on a une fédération fait faillite qu'elle ne pourra pas renaître de ses cendres. Le basket, les gens continueront à pratiquer le basket. Je suis plus inquiet sur la capacité de fidélisation à la fois de la pratique sportive et de la motivation des bénévoles.
L'impact est le même, Carole Gomez, vous êtes directrice de recherche à l'IRIS pour le sport pro. J'ai vu que le basket, le volley, le hockey sur glace ou le hand, par exemple, avaient publié une tribune assez alarmiste. La billetterie, disent-ils, représente près des deux tiers des ressources d'un club. Donc 2 mois de confinement au printemps, plus 2 mois de matchs sans public, c'est ce qu'on vit en ce moment, ça représente 40 millions d'euros de manque à gagner. Quel impact là pour ces secteurs?
Alors là aussi, il va falloir un peu de temps pour savoir exactement quelles vont être les conséquences économiques pour ces fédérations, en sachant que là encore, il va y avoir une différence à apporter entre les fédérations, puisque le modèle économique n'est pas forcément le même. Dans le domaine du football, les droits télé ont une part considérable, à la différence, par exemple, du handball ou du basket, où ça va être quelque chose de différent. En revanche, et peut-être si vous me permettez de faire juste un point sur une situation, si on parle beaucoup de sport amateur, si on parle beaucoup de sport professionnel, et ça c'est quelque chose qui était déjà le cas lors du premier confinement, il y a un secteur qui passe assez souvent et trop souvent sous les radars, c'est le sport au féminin. Et le fait que certains championnats masculins continuent, des championnats féminins sont arrêtés, alors que les conditions sanitaires sont les mêmes, c'est les questions de statut qui diffèrent, le côté amateur et le côté professionnel d'un côté. Mais donc ça pose aussi la question de savoir, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la nécessité de se mettre autour de la table et de penser le sport de demain. Des initiatives ont été menées lors du premier confinement, il y a eu des réflexions qui ont été en cours. C'est bien de vouloir faire ça, c'est encore mieux si c'est une réflexion qui se poursuit et qui surtout aboutit à un certain nombre de résolutions. Pour revenir à votre question sur la question du modèle économique, on sait qu'il n'est pas bon, on sait qu'il est imparfait, on sait que potentiellement on va droit dans le mur sur la question du sport professionnel. Il est sans doute peut-être temps de faire un peu de jus de crâne et de se mettre autour de la table pour essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Bon. En sachant que...
Et on tâche ce soir d'amorcer cette réflexion à notre petit et humble niveau. Jean-Philippe Assensi, vous êtes fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport.
Oui, je pense qu'il y a aussi une forme d'évolution démocratique sur ce qu'on se dit là. Il faut écouter bien d'autres acteurs. Il y a bien d'autres acteurs aujourd'hui qui réinventent le sport. Les élus locaux, je parlais tout à l'heure des sports urbains, des éducateurs extraordinaires qu'on ne voit pas assez, qui font un travail de l'ombre, qui sont des piliers pour cette jeunesse. Il faut faire respirer cette démocratie. On a créé, avec le soutien de la ministre des Sports, le mouvement de la performance sociale du sport, avec des fédérations, des entreprises, des collectivités. Il faut faire vivre tout ça. Madame parlait des femmes, évidemment, on n'a qu'une présidente de fédération française sur les 60. Il faut rénover tout ça
urgemment.
Vous n'avez
pas été consulté aujourd'hui par le président de la République.
Non,
s'il était en face de vous, que lui diriez-vous?
Je lui dirais que ça fait 25 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on a modestement une expertise qui peut être écoutée et que le sport, c'est bien d'autres choses que de la pratique. Et surtout, dans ces quartiers-là, et je lui dirais que dans le cadre du plan de relance, faisons évoluer cette nouvelle promesse du sport. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que le sport prenne sa place, toute sa place sur l'insertion des jeunes. Il y a 1 million de jeunes au chômage aujourd'hui en France. Pourquoi ne pas prendre 10%? Ça voudrait dire 100 000 jeunes, ça voudrait dire 700 millions d'euros. Et je pense qu'ils trouveraient Il trouve beaucoup d'acteurs, beaucoup de fédérations, beaucoup de collectivités derrière ce grand projet pour la nation.
Pierre Rando, il y a vraiment le sentiment aujourd'hui d'un abandon de ce secteur associatif sportif.
Non, on peut pas.
C'est vécu comme ça.
Oui, alors j'imagine que en leur sein, je pense qu'ils doivent avoir le sentiment d'être abandonnés. Après, on peut raisonnablement pas le dire. On a effectivement eu des différents plans de relance qui ont été déjà décidés. Je pense notamment au précédent plan de relance de 120 oui. millions d'euros. Aujourd'hui annoncé de 400 millions d'euros, bien que si je rentre dans le détail, une partie avait déjà été votée par le Parlement, donc avait déjà été intégrée et projetée, et une autre partie n'a pas encore été budgétée, donc on attend de voir ce qui va se passer.
Mais pour tous les gens qui nous écoutent et qui participent à ce sport associatif, ce sport du quotidien, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Peut-être un message d'espoir quand même.
Oui, je le répète, heureusement, d'ailleurs on l'a observé pendant le confinement, les pratiques sportives, même individualisées et autonomes, ont augmenté. On a constaté pendant le confinement une augmentation de 30% de la pratique sportive. Donc quoi qu'il arrive, les gens continueront à faire un sport. On vit une période extrêmement difficile, il faut aider le secteur sportif pour tout ce qu'il représente, le sport amateur, le sport professionnel, le sport féminin, toutes les disciplines. Mais à l'avenir, quand sera terminé, on pourra de nouveau pratiquer un sport.
Bien, et vive le sport. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans Europe Soir tous les trois et d'avoir parlé de cet appel au secours du sport français.
Europe 1, Julien Bugier.
19h48, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir et ce soir, en ce 17 novembre, on vous raconte le jour où Georges Besse a été assassiné par Action Directe. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et le Club des idées qui se poursuit à 19h52. On plonge maintenant, comme chaque soir, dans les archives d'Europe Soir pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Ce soir avec vous, nous allons parler d'un assassinat resté célèbre dans l'histoire de la Ve République. Nous sommes le 17 novembre 1986. À l'époque, en France, sévit un groupe terroriste communiste. Jusqu'à présent, il s'attaquait aux symboles, loin des attentats qui se multipliaient au même moment en Italie, lors des fameuses années de plomb. Mais ce soir, la Pauline, le groupe Action Directe change de ligne de conduite. 4 personnes assassinent le PDG de Renault, Georges Besse.
Oui, il est 19h45. Lorsque l'homme de 58 ans monte dans sa Renault 25, il quitte une réunion aux environs du Champ de Mars et arrive chez lui un peu avant 20h, boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement de Paris.
Le chauffeur garde du corps repart, laissant Georges Besse franchir seul les 50 mètres qui le séparent de son domicile. C'est là que les tueurs se sont postés, 2 femmes et un homme qui tirent 4 balles de 9 mm.
J'ai pensé sur le coup que c'était 2 jeunes filles. La façon dont je les ai vues de dessus, qui couraient quoi. J'ai vu la gamine prostrée à côté de son père, ça m'a complètement bouleversée. J'ai pensé à la mienne, je me suis dit que c'est affreux, affreux de voir ça.
Une balle dans la tête, une autre dans la poitrine, Georges Besse est étendu sur le sol. Jacques Chirac, Premier ministre, arrive très rapidement sur les lieux du drame.
Je suis horrifié. Georges Besse était un homme exceptionnel qui conduisait d'une manière exemplaire le redressement de cette grande et belle entreprise qui est Renault. Tout sera mis en œuvre pour découvrir les assassins.
Après avoir tiré sur ce père de 5 enfants, une femme s'engouffre dans le métro, station Raspail. Elle jette une poignée de tracts. L'exécution est signée.
Oui, signée Action Directe, Pauline. C'est un groupe communiste terroriste.
Dont font partie 2 femmes, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, les 2 tueuses, comme elles seront appelées par la presse, et 2 hommes, Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillant. Le Quatuor devient dès le lendemain matin l'ennemi public numéro 1.
Un correspondant anonyme, en effet, a prévenu la police judiciaire parisienne. Au métro Raspail, dit-il, vous trouverez des tracts d'Action Directe revendiquant l'opération Besse. Fin de citation. Les policiers à l'entrée du métro vont trouver en effet 2 tracts qui revendiquent l'assassinat de Georges Besse au nom d'Action Directe, commando Pierre Auvernet, sans plus de précision.
Pierre Auvernet, militant maoïste, tué devant l'usine de Billancourt 16 ans plus tôt par un vigile de Renault.
Renault, cible d'Action Directe donc, via son patron Georges Besse.
Homme discret, il mène une politique rigoureuse pour tenter de redresser l'entreprise. Patron massif, bourru, tenace, obstiné, on le surnomme la brute lorsqu'il parle de sureffectif. L'un chef d'entreprise admiré par Yvon Gattaz, le président à l'époque du patronat français.
Ce que j'aimais chez Georges Besse, c'est que c'était un homme qui s'était formé lui-même, malgré ses titres prestigieux de polytechnicien. C'était un homme qui était fier de rappeler qu'il avait des origines provinciales et très modestes. Nous étions heureux de nous raconter que nous le vions de bonne heure et que nous ne faisions pas de mondanité le soir. Il était comme moi un peu un adversaire des dîners en ville.
Mais selon les membres d'Action Directe, Georges Besse est surtout coupable d'une tentative de résoudre certaines contradictions du système capitaliste par une atomisation extrême de la classe exploitée.
On reconnaît effectivement le lexique là, d'Action Directe, dont les membres, Pauline, seront arrêtés puis jugés aux assises au mois de janvier 89.
Interpellés dans une ferme du Loiret, les quatre membres sont condamnés à perpétuité par le tribunal au plus grand soulagement de l'épouse de l'homme d'affaires, Françoise Besse.
Depuis 2 ans, nous attendons que la justice parle et elle vient de parler, et elle a parlé avec, me semble-t-il, beaucoup de courage. Et c'est une décision qui me paraît historiquement importante. Nous sommes certainement soulagés que cette étape douloureuse, très pénible, mais que cette étape soit désormais franchie.
Action Directe ne dira rien du pourquoi. Pourquoi avoir tué un homme après avoir privilégié cette lutte symbolique? Pourquoi lui? 34 ans après cet assassinat, les membres du groupe n'ont toujours rien dit, ni pardon, ni explication.
Merci Pauline.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56 dans quelques secondes, le rappel de l'info. Et puis on retrouve Émilie Mazoyer, bien sûr, pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Alors qui reçois-tu ce soir?
Ce soir, je reçois une chanteuse brésilienne qui est installée en France maintenant depuis une dizaine d'années. Elle est formidable. Elle chante, elle rappe, elle écrit, elle compose. Elle s'appelle Flavia Coelho. On va faire des progrès en portugais en plus.
J'ai déjà la saudade.
Exactement.
La saudade. Merci Émilie, à tout de suite avec ton invité, 19h57. Quant à moi, je vous dis à demain, même mieux, même heure, à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer. Merci de votre fidélité. Bonne soirée, à demain.